Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment assurer une bonne protection de nos forêts? Vous savez, les forêts jouent un grand rôle dans la régulation du climat. D'après les experts, la destruction des forêts entraîne la perturbation des saisons. Le climat est déréglé, les cours d'eau tarissent et les sols se dégradent. Il est donc important de préserver les forêts pour lutter contre le changement climatique afin de maintenir les températures à des degrés acceptables. Comment assurer la protection de nos forêts? Flori Botamba, chef de programme Forêt Point Focal au Fonds Mondial pour la Nature, est notre invité aujourd'hui. La première question, Flori Botamba, est de savoir qu'est-ce qui cause ou qu'est-ce qui entraîne la destruction de nos forêts?
Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord l'aspect tout à fait économique. Je crois qu'on doit aux forêts des différents différentes utilisations, notamment le bois que nous avons besoin non seulement pour nous chauffer, donc ce que nous appelons dans le cadre de l'énergie bois, mais également aussi le bois commercial pour nos meubles, pour la construction, pour tant d'autres utilisations que nous avons au quotidien. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y a de catastrophes naturelles qui peuvent détruire les forêts, mais il y a aussi les activités agricoles, notamment l'agriculture itinérante sur prairie. Il y a le feu de brousse et il y a autant d'autres raisons comme l'exploitation. Dans l'exploitation industrielle, vous avez l'exploitation industrielle légale. Il y a aussi l'illégalité dans l'exploitation artisanale, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui peuvent aller au-delà de ce qui est demandé et ils coupent de façon abusive au-delà du quota qui leur a été accordé. Et donc, on arrive à une exploitation non réglementée qui conduit à la diminution de la superficie forestière. La superficie forestière de la RDC est à 155 millions d'hectares. Et donc...
Dans l'ensemble
du pays. Mmh.
Donc, on en a perdu déjà combien?
Donc, si vous regardez, on perd... Cela dépend des estimations. Et on prend par période. En certaines périodes, on perd des mois. Donc, ça dépend aussi des zones. Ça dépend aussi des intérêts. Donc, pour l'instant, je vous donne la superficie. Et je vais vous expliquer tout au long de l'émission comment on arrive vraiment à perdre le pourcentage réel.
155 millions d'hectares.
Oui, ça c'est la superficie.
La superficie générale.
Générale.
Alors, dans quelle partie du pays on a plus perdu? Souvent, on parle du Mayombe, les forêts du Mayombe, voilà. Où il y a presque plus rien là-bas.
Et donc, c'est ça la difficulté. Le Mayombe a subi une pression due à la proximité de voies de communication, notamment le port de Boma, le port de Matadi, mais également aussi le pays voisin qui avait besoin de bois. Et on a fait une exploitation un peu plus abusive et qui a conduit à la destruction de la forêt de Mayombe. Donc, quand nous parlons de la destruction, nous pensons plus aux forêts primaires, où il n'y a plus de forêts primaires et il y a maintenant peut-être des zones où il y a des reprises forestières. Il y a des endroits, notamment si vous retournez, vous venez vers Louki, il y a la réserve de biosphère de Louki qui est protégée, donc selon la loi. Mais à force de faire la pression pour un but lucratif, on a fini par détruire sans pouvoir reboiser. Parce qu'il y a une opportunité, lorsque vous coupez un arbre, il faut reboiser. Et je crois qu'à une certaine époque, il était demandé aux exploitants de reboiser. Mais par la suite, l'État a pris l'option de pouvoir mettre en place une taxe de reboisement. Et donc, l'exploitant paye à l'État et c'est à l'État de reboiser.
Et malgré cela, il n'y a jamais eu de reboisement.
Disons que si vous regardez l'État actuel, si vous allez dans le Mayombe, vous constaterez que ça ne vaut pas plus la peine comme autrefois, où il y avait, lorsque vous arrivez, vous voyez une forêt avec toute sa biodiversité, avec tout ce qu'elle pouvait avoir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est un exemple triste. Mm-hmm. Et cette pression s'est déplacée, n'ayant plus suffisamment de bois à la taille exploitable. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé vers le nord de Kinshasa. Et donc, c'est la zone Bandundu, dans la partie Maïndombe, qui est proche de Kinshasa. Et au-delà de là, vous allez maintenant vers la province de l'Équateur, province orientale, où ce sont les provinces forestières. Vous avez trois grandes provinces forestières en RDC, donc l'ancienne province orientale, et l'ancienne province
de l'Équateur,
ainsi que le Bandundu, donc la partie province Maïndombe. Et donc, ce sont les zones qui subissent plus de pression actuellement parce que tous les exploitants industriels se sont déplacés dans ces zones-là. Et donc, étant en proximité de Kinshasa également, il y a une forte demande de bois à Kinshasa pour toutes sortes de raisons. Et donc, ces zones-là subissent une pression beaucoup plus importante.
Et quel impact cela entraîne sur le climat, par exemple?
Et donc, avant d'aller même plus loin, il y a un impact direct sur la communauté riveraine à ces différentes forêts. La diminution justement des espèces biologiques, notamment les différents mammifères ou que les communautés pouvaient aller chasser. Donc quand nous regardons les différents produits forestiers non ligneux, il y a une diminution assez importante. La coupe touche même des arbres à chenilles, donc il y a diminution de chenilles dans le marché de Kinshasa ou pour les communautés. Mais également, si nous remontons plus haut maintenant vers la régulation climatique, il y a un dérèglement climatique que nous constatons de plus en plus, où il y a où la saison sèche parfois est plus longue, où elle est plus courte, et parfois aussi la saison des pluies est plus longue ou plus courte.
Donc, par exemple, à Kinshasa, depuis le retour de la saison des pluies, il ne pleut presque pas.
Non, il ne pleut pas. Vous avez eu deux pluies. Une pluie et deux petites histoires qui ont fait semblant d'être des pluies. Donc, c'est déjà un problème très sérieux qu'il faut déjà regarder. Et donc, ce genre de choses sont dues, justement, à la pression humaine. C'est l'homme, en fait, qui est le problème majeur. Au-delà des causes que nous cherchons, mais les causes-là sont dues aux besoins de l'homme, dans sa vie ou dans sa survie. Et l'homme fait pression sur tout ce qui est aux alentours, notamment la forêt, et d'où il y a un dérèglement
climatique. Hein. Mais à un certain moment, il fait très chaud, on se dit, mais tout ça, c'est lié au changement climatique.
Bon, le réchauffement climatique est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre, et donc normalement, les gaz à effet de serre existent. Mais lorsque nous débordons dans nos utilisations domestiques, industrielle, l'exploitation forestière et toutes sortes d'usages que nous avons, ou l'utilisation des énergies fossiles. Nous rejetons différents gaz dans l'atmosphère et dont la quantité de gaz existant à l'atmosphère augmente et elle emmagasine les rayonnements au niveau de l'atmosphère et finalement ça réchauffe. Vous avez, c'est comme nous sommes dans le studio et qu'on utilise toutes sortes d'appareils de chauffage, mm-hmm. Et à un moment donné la température devient insoutenable là où nous sommes et nous ne pouvons plus rester ici.
Donc, on nous dit qu'on a beaucoup de forêt et c'est la forêt qui permet de résorber ou de séquestrer ce gaz.
Bon, la forêt joue le rôle de régulation en termes de gaz carbonique lorsque nous rejetons à travers les différents usages le CO2, donc par le fait de la photosynthèse, l'arbre séquestre le carbone et libère l'oxygène dont nous avons besoin et donc ça nettoie un tout petit peu. Mais quand vous émettez énormément, si vous allez dans certaines villes, notamment Mexico et autres, ou dans certaines villes chinoises, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas respirer parce que il y a la pollution de l'air est assez importante. Mmh. Donc il vous faudrait des usines de recyclage beaucoup plus fortes. Mais la forêt joue son rôle et donc il faut une forêt jeune qui séquestre davantage de carbone à un certain âge lorsque la forêt devient adulte. elle n'a plus le même potentiel de séquestration qu'une forêt jeune.
Donc, il faut la renouveler.
Donc, il y a une régulation qui s'est faite d'où. C'est pour cela qu'il y a la régénération naturelle de nos forêts qui doit se faire. Si elle devrait se faire, donc il faudrait diminuer la pression également pour permettre à la forêt de reprendre et aussi de se réguler.
Bien, comment assurer une bonne protection de nos forêts? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Flori Botama, chef de programme forêt et point focal au Fonds mondial pour la nature. Symphorien Bidoya nous appelle des Kananga, Omar Kigalo est à Kinshasa. Vous voulez également participer à cette émission de la vie au quotidien? Appelez au 081 890 63 94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Comment bien protéger nos forêts? Symphorien Bidoya, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à tous.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai d'abord une question avant de parler à tous les sujets. Je vais demander à l'invité de me dire si l'urbanisation est contre la protection des forêts, parce que je remarque que dans notre ville de Kananga, au centre-ville, quand on est en train de d'enlever... des verdures qui sont sur la route, quand on est en train de planter des pelouses et des fleurs, on est en train de couper les arbres. On ne sait pas comment, ils ne font pas les reboisements, ils ne font que couper les arbres qui étaient là, les grands arbres qui étaient là depuis l'époque coloniale, qui protégeaient quand même les gens là, ils pouvaient s'abriter. Et on est en train de couper presque tous les arbres là sur la ville, il n'y a même pas encore beaucoup d'arbres. Je ne sais pas si l'urbanisation est contre la protection des forêts. Et puis, je veux aussi lui demander si pourquoi quand l'État coupe les arbres là, il ne pense pas au reboisement. Je ne sais pas si les gens vont, les particuliers vont aussi faire ça. Est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que c'est l'État qui devait d'abord faire suivre le modèle. Mais quand il coupe d'abord les arbres qui étaient sur la ville, qui protégeaient quand même...
Bien, merci Symphorien. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis Kassomel, bonjour à l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, je dis de la parole.
Une question. Lorsqu'on lit le code forestier, on voit qu'on cite des productions permanentes, les forêts classées et les forêts non classées. Je voudrais que l'invité qui est l'expert puisse établir la différence entre ces trois sortes de forêts et quels sont les mécanismes de prévention par rapport à chaque sorte de forêt. Deuxième question. En soi, le code forestier n'interdit pas les déboisements, mais le déboisement est interdit lorsqu'il est abusif. Alors, il peut nous dire qu'est-ce qu'on entend par déboisement abusif. Troisième et dernière question aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'invité l'a dit, la forêt est liée à la vie de l'homme. Elle est inhérente à l'existence de l'homme. Si vous allez dans les fins fonds des villages, vous allez remarquer que les villageois n'utilisent surtout le bois pour faire peut-être le charbon. Or, aujourd'hui, les environnementalistes utilisent les gens de couper les bois. Et là, comme le bois est interdit alors qu'il est lié à la vie de l'homme, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative aux villageois, aux citoyens qui vivent dans les milieux périphériques, comme il est interdit d'utiliser les bois, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour survivre? Et dernière question, l'invité ne pense-t-il pas que la plus grande cause qui fait qu'il y ait déforestation, c'est d'abord... Le manque d'éducation environnementale, parce que beaucoup de citoyens congolais, voire même autorités, ne maîtrisent pas les règles environnementales. Est-ce que l'État pêche par la sensibilisation ou les experts ne font pas leur travail? Voilà mes quatre questions jeudi. Je vous remercie.
Bien. Mohamed Ba, vous êtes à Cabinda. Bonjour.
Bonjour, jeudi. Bonjour, notre invité.
On vous écoute.
Voilà, moi, ma préoccupation, c'est celle-ci. Ici, il y a des secteurs comme le secteur de Lukashi Lualu. La grande technique utilisée pour la culture, c'est la culture sur brûlis avec jonchère. Quand vous vous rendez compte, chaque année, ce sont des hectares, des centaines d'hectares qui tombent pour le champ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les paysans à mieux assurer la protection des forêts? Parce que sans pour autant détruire ces forêts, sans pour autant mourir de faim.
Bien, merci. Et Meminaku, vous êtes à Dungu, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonjour Annie.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai des questions. La première est de savoir, une forêt après avoir été détruite, après combien d'étapes peut-elle être transformée pour revenir à la forme normale qui peut avoir une forêt? C'est ça la première question. La deuxième est, je voulais demander à l'invité, qu'est-ce qui peut dire au cultivateur plutôt qu'il défriche une grande étendue mais ne cultive pas comme il faut? Il laisse une étendue comme ça, ce qui cause la jachère, tout ça c'est la destruction. Il n'utilise pas la terre comme il faut, il laisse l'étendue comme ça. Et je dis, c'est ça ma question.
Bien, merci Florie Botamba. Vous avez la parole, le premier intervenant, Saint-Florian de Kananga. Il dit, est-ce que l'urbanisation entraîne la destruction de la forêt ou des arbres? Parce que dans les grandes villes, généralement, quand il y a des travaux d'urbanisation, voilà, ce sont les arbres qui en pâtissent, on les coupe et il n'y a jamais eu reboisement.
Merci pour les différentes questions. Je voudrais d'abord expliquer une chose. Tout pays devrait avoir un plan d'aménagement de son territoire. Et le plan d'aménagement de son territoire définit les différents usages que devrait avoir chaque portion de terre et permettre à ce que l'exploitation de ces terres-là soit systématiquement organisée selon la planification faite au niveau du pays. Et donc, ces plans d'utilisation des terres faits au niveau le plus élevé va avoir une déclinaison provinciale, territoriale et au niveau de secteurs et de communautés. Cela permettra à ce que, premièrement, on puisse s'orienter vers un travail qui se ferait dans la zone spécifique pour tel ou tel autre besoin. Et donc, il y aurait des zones classées. Et là, je répondrai à la question qui va suivre. Mmh. En ce qui concerne l'urbanisation, je crois que lorsqu'on parle de l'urbanisation, c'est-à-dire qu'il y a une pensée de l'autorité de pouvoir aménager un secteur bien précis avec toutes sortes d'éléments pour valoriser cet espace. Et dans les cas précis, s'ils font de l'urbanisation, je ne pense pas que ce serait à l'encontre de peuplement des arbres qu'on pourrait mettre en place. D'habitude, lorsqu'on voit dans certaines zones qu'on coupe certains arbres, vous vous souvenez très bien, lorsqu'il y a des grandes pluies, souvent nous avons des arbres qui tombent et qui bloquent ou qui risquent de faire des dégâts. Et lorsque l'arbre a atteint un certain âge et qu'on se rend compte qu'elle présente plus de risques.
Des risques. À ce moment-là,
il faut la couper et maintenant remplacer avec autre chose. Mmh. L'idéal, c'est de pouvoir consulter l'autorité en place, de voir les plans qu'ils ont établis pour renouveler l'espace en question au niveau des Kananga et voir s'ils n'ont pas prévu de planter des arbres. Et d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? On plante actuellement des arbres à croissance rapide qui permettent d'atteindre un certain niveau à un temps assez réduit. Mmh. Contrairement aux essences, les essences que nous trouvons au niveau local, qui prennent plus de temps pour atteindre l'âge adulte. Donc, je vous encourage vivement d'aller consulter l'autorité urbaine et de pouvoir vérifier si oui ou non ils ont prévu cela. S'ils l'ont pas fait, l'encourager à pouvoir restaurer les peuplements qui existaient.
Mais on veut bien couper ces arbres, mais après il faut reboiser.
Justement.
Mais c'est ça qui ne suit pas.
Justement. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir avec l'autorité en place. Parce
d'accord.
Qu'il y a la planification.
Oui. On va accueillir deux autres auditeurs et vous allez poursuivre. Ouais. Rigobert Outanika, vous êtes à Kinshasa. Arsène Odo, vous êtes à Bujumbura, au Burundi. Rigobert, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Oui, juste, le sujet est très intéressant. J'allais demander une petite question à l'invité. Il y a une différence entre reboisement et déboisement. Il y en a laquelle? Et il y a encore aussi une petite différence entre forêt primaire et forêt secondaire. Il y en a laquelle aussi?
Ça. Merci. Arsène, vous êtes à Bujumbura. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, en fait, je suis très fier encore de m'assister dans le débat. Bon, en fait, je souhaite demander à notre député de quitter le savoir parce que bon, nous sentons déjà les premiers de notre mission. Mais ce qui est vrai, bon, moi je me demande normalement comment on peut protéger des, nos forêts. Et aussi, au fait que vous savez que les droits des peuples autochtones souvent ne sont pas vraiment bien effectués ou ne sont pas respectés. Bon, vous vous rendez compte, à un certain moment, on était au niveau des Itombwe. Vous savez que les Itombwe sont devenus les sites pour les comptes des patrimoine mondial. Mais on se rendra compte qu'il n'y a pas des écoles pour la population, il n'y a pas de centres de santé. Et on se rendra compte aussi vraiment qu'il n'y a pas une forte sensibilisation à montrer à la population. Vous savez, les terrains dont vous habitez aujourd'hui, vous n'avez pas encore de même mis sur ça. Et ce qui est vrai, on doit laisser pour le compte du gouvernement ou pour le compte de notre État. Bon, on ne le fait pas, on est en train de se cacher parce qu'on savait bien que si on, est, on sensibilise la population avec des pourcentages élevés, et peut-être la population va réclamer son pas.
D'accord.
Quand il y aura des parts de population, bon, en tout cas, ça sera difficile. Donc, je demande à notre invité, protéger nos forêts, c'est nécessaire et c'est essentiel. Bon, parce que bon, vous savez qu'en Europe, ce que nous avons aujourd'hui, ça n'existe pas.
D'accord, merci Arsène. Arsène, merci.
Oui.
Merci beaucoup. Oui, oui, on a compris. Merci, merci beaucoup, Arsène. Je reviens rapidement à notre invité. Omar Kidjalo a dit quelle est la différence que vous faites entre forêt classée, forêt non classée.
Effectivement, le code forestier propose trois types de forêts. Les classes de trois types. Il y a les forêts protégées, il y a les forêts classées et les forêts de production permanente. Les forêts protégées, je dirais que c'est toutes les forêts de la RDC qui n'ont pas reçu une affectation particulière, d'une manière générale. On l'appelle protégée, pas dans le sens de la protection qui lui est donnée, mais en fait, on l'appelle protégée parce que à ce moment-là, il est libre, mais il est régi par un droit d'usage où vous et moi, qui sont les communautés vivant aux alentours de ces forêts, nous pouvons avoir accès et les utiliser pour nos besoins de tous les jours. Par contre, lorsqu'on appelle forêt classée, c'est-à-dire on a pris une portion, un bloc de ces forêts et on lui a donné un usage bien restrictif. C'est-à-dire, on s'est dit que cette zone-là, à cause de la qualité de la biodiversité qui s'y trouve, où on devrait la mettre de côté pour ne pas la détruire.
C'est ça qu'on appelle les aires protégées.
C'est les cas des aires protégées. C'est les cas de jardins botaniques. C'est les cas de jardins zoologiques. Donc.
Et là, c'est une bonne façon de protéger les forêts.
Une bonne façon, mais il y a des niveaux de catégories. C'est-à-dire, quand je parle de catégories, il y a des zones de protection intégrale où aucune activité n'est admise dans cette zone-là.
Ou par exemple, à travers le pays.
C'est les parcs nationaux.
Le cas des parcs nationaux.
Ok. Mais il y a des réserves où il y a des catégories moindres où on permet aux communautés d'avoir accès à ces zones-là pour divers usages qui sont définis dans les arrêtés portant création de ces aires protégées.
Arsène nous dit tout à l'heure de Bujumbura que les droits des autochtones, généralement, ne sont pas respectés. Alors, comment vous voulez les empêcher de ne pas accéder à la forêt alors qu'en retour, on leur propose rien?
Vous vous contredisez vous-même parce qu'au départ, vous dites que c'est une bonne chose de protéger ces forêts-là.
Oui.
Mais en même temps aussi, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des catégories, il y a les réserves intégrales.
Mais non, je ne me contredis pas. Je ne fais que relayer.
Non, justement, si je suis pour le cours d'idée par rapport à l'auditeur. Donc, il y a une contradiction dans le sens que c'est une bonne chose de protéger.
Oui.
On ne perd rien parce que tout se trouve à cet endroit-là. On ne clôture pas les parcs nationaux. Mais au contraire, il y a après les parcs, vous avez des zones tampons. Et puis après, au-delà des zones tampons, vous avez des zones communautaires. Donc, si par exemple, vous avez des espèces qui ne sont pas protégées, mais qui sont dans la partie intégrale. Elles pouvaient avoir des opportunités d'aller jusque dans les zones communautaires, donc les communautés puissent exercer la chasse dans les temps impartis pour faire cette activité. Donc, il y a toujours une opportunité d'avoir la biodiversité ou c'est que les produits forestiers non ligneux comme on le souhaite.
Mais quelles sont les autres alternatives qu'on propose aux communautés pour réduire la pression?
J'arrive. Permettez, parce que dans les deux, trois catégories, il y a la catégorie forêt de production permanente, qu'on n'a pas donné la réponse. La forêt de production permanente, c'est une forêt, un bloc forestier, que l'État valorise auprès de tierces, c'est-à-dire vous avez une idée qu'il y a des chutes dans cette zone-là, vous avez des zones de valeur touristique et vous voulez valoriser cet espace-là, vous pouvez demander à l'État et l'État peut vous accorder pour valoriser ces sites-là et que ça puisse être rentable en termes des activités touristiques. De la même manière que vous avez identifié qu'il y a autant d'espèces, autant d'essences, pardon, qu'on peut valoriser en les vendant sous forme de l'exploitation industrielle ou artisanale, vous pouvez demander aussi à l'État que vous puissiez exploiter un bloc forestier avec un quota bien précis au niveau du cubage à sortir de la forêt chaque année. Et donc, ça, c'est la partie vouée aux forêts de production permanente. Donc, forêt classée, forêt de production permanente et forêt protégée. Et vous avez les trois types et avec des usages bien différents. Maintenant, si nous regardons effectivement, si nous prenons les cas de réserves et autres, évidemment, des gens vivent aux alentours ou dans ces zones. Normalement, il y a une procédure de classement qu'on appelle une procédure de classement de forêt qui permet à ce que...
C'est ça que vous appelez le zonage.
Au-delà du zonage, il y a toute une série d'étapes que le législateur doit prendre avec les parties prenantes vivant dans et aux alentours de cette zone pour arriver au classement de la zone. Et lorsqu'il y aurait des personnes vivant à l'intérieur, si on devait faire de cette zone une zone de protection intégrale, ils ont la responsabilité de faire un déplacement, un mécanisme de déplacement volontaire des communautés, mais on devrait leur allouer notre espace qui aurait la même valeur ou plus que là où ils étaient. Donc, il y a toute une procédure qui s'est faite, c'est la procédure de vacances des terres qui est mise en place. Donc, ça se fait au vu aussi de tout le monde. Maintenant, la difficulté, c'est peut-être ce qu'il a dit un peu plus loin, c'est que la sensibilisation est-elle faite au niveau qui est une meilleure compréhension de la communauté.
Parce que l'éducation environnementale.
Voilà, parce que les communautés, d'une manière ou d'une autre, font la protection déjà de la forêt avec les zones sacrées. Vous verrez que dans nos communautés, derrière nos forêts, il y a des zones sacrées où nous n'avons pas accès. Nous n'accédons que lorsqu'il y a des rituels qui sont exercés par nos responsables traditionnels. Donc, dû à cela, c'est-à-dire nous faisons exactement ce que l'État fait, mais pas de façon à en ayant des documents légaux pour dire voilà cette zone est impartie pour telle activité. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Lorsqu'il faut accéder à cette zone, c'est les chefs et les notables du village qui font les rituels habituels et nous accédons selon le temps imparti par l'autorité. Dans les cas précis, c'est
un instant, on va accueillir Jules Kazadi de Lubumbashi. Bonjour Jules.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les nombreux auditeurs de la radio Kati.
Rapidement, donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
J'ai seulement des questions à poser à l'invité. La première, c'est parce qu'ici, on sait qu'avant de faire un chat, il faut couper les bois. Alors, le problème, c'est quelles sont maintenant les mesures des circonstances pour que quand vous coupez les bois, de ne pas tomber dans les réchauffements climatiques, dans des conséquences comme ça. Et la deuxième, c'est ailleurs, à l'extérieur de notre pays, il y a les pays là où on crée la forêt artificielle. Je ne sais pas si on peut aussi exercer ce système ici chez nous, si ça peut aller quand même. Il faut que l'invité puisse me donner la réponse.
Merci. Quand on fait le champ, on doit couper le bois. Mohamed Ba a parlé aussi de l'agriculture sur brûlis, et puis avec jachère. Alors comment faire pour que cela n'ait pas un impact sur le plan environnemental et comment protéger aussi ces paysans pour qu'ils puissent trouver de quoi se nourrir. Et même Minaku a parlé après combien de temps la forêt peut se régénérer. Et il y a certains agriculteurs qui défrichent une grande partie de terres, mais ils n'utilisent pas tout cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces différents auditeurs?
C'est ce que je peux dire déjà, lorsque vous savez qu'ils habitent Kinshasa, lorsqu'ils vont au niveau du plateau de Bateke, ils voient ce que c'est ne plus avoir des arbres, tout autour, ils voient la réaction, on voit la savane.
C'est la savane,
là-bas. Qui est là, et puis dans ceux qui connaissent bien, tous nous avons appris au cours de géographie, c'est la zone de Sahara. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce n'était pas assez vide, il y avait des forêts. Quand on regarde un peu, on va un peu plus en bas, en arrière, on se rend compte qu'il y a eu des forêts, et puis finalement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a les déserts. Donc ça, c'est la conséquence de l'activité de l'homme dans les temps lorsqu'elle est pressée. Lorsque nous regardons l'agriculture d'une erreur sur Brilly, nous ne disons pas qu'on ne doit pas faire l'agriculture, que les communautés ne devraient pas faire l'agriculture, bien au contraire. On devrait remplacer par l'agriculture, à ce que nous appelons l'agriculture durable, qui consiste à utiliser des semences améliorées, qui consiste à utiliser des techniques culturales où il y aurait un appui de quelqu'un ou d'un technicien, donc nous appellerons peut-être l'agronome ou au niveau du village, qui pourrait accompagner les communautés dans une certaine direction pour pouvoir éviter de façon clair et net de l'agriculture d'inérance sur Brilly. La raison pour laquelle les gens vont vers la forêt, parce que c'est parmi les utilisations ou les bien fonds de la forêt, les zones forestières sont fertiles. Et c'est la facilité d'aller dans une zone très fertile pour pouvoir faire son champ et avoir cela.
On peut dire que l'agriculture sur Brilly, itinérante sur Brilly, a un impact négatif sur l'environnement.
Bien sûr, elle est énorme, parce que c'est l'une des causes principales de la déforestation en RDC. Et donc, c'est la raison pour laquelle on la remplace par l'agriculture durable. Et de ce fait, pour y arriver, il faut effectivement, comme on l'a suggéré, il faut cette partie de l'éducation environnementale, de travailler avec les communautés, de pouvoir faciliter aux communautés d'avoir des champs écoles où ils apprendraient à faire la multiplication des semences durables, à utiliser, par exemple, dans les cas de manioc, des manioc à bouture améliorée qui produisent davantage des tubercules et qui leur permettent d'avoir un rendement supérieur dans une superficie assez réduite. Donc on n'aurait pas besoin d'avoir des superficies assez énormes, mais le rendement serait important. Ou ils auraient aussi l'opportunité de ce que nous faisons comme ce que d'autres appellent l'agriculture intégrée, où vous avez peut-être des zones où vous utilisez plusieurs rotations en ayant une opportunité d'avoir un grand rendement dans une zone bien, bien spécifique. Donc si nous regardons le travail qui est fait, et on s'est dit que, tiens, reboisement, c'est quoi en fait finalement, lorsqu'on a utilisé abusivement la zone, et qu'il faudrait faire, au lieu de laisser la régénération naturelle se faire, parce qu'on est en train de faire la pression sur la zone, qu'est-ce qu'il faut? Il faut planter artificiellement, puisque quelqu'un parlait de la, comment faut-il qu'on y aille vers les forêts artificielles. On fait le reboisement. Les reboisements, c'est-à-dire, il y a eu du bois, et qu'on en a coupé, et que maintenant il faut remettre ce qu'on avait coupé. Boisement, c'est là où il n'y en avait pas, et qu'on est en train
de faire. C'est une meilleure façon de protéger nos forêts.
Justement, puisque ça vous donne l'opportunité d'avoir une forêt artificielle qui répondrait aux besoins de la communauté après un certain temps. Je prends un cas d'espèce, vous avez un mampou, au niveau du plateau de Bateke, vous avez Ibi Bateke qui est là, vous avez des zones où les hommes ont planté, et ces arbres à croissance rapide, notamment les acacias, après une certaine durée, de peut-être 7 à 8 ans, on peut déjà exploiter. Et puis lorsqu'on exploite, on peut faire le charbon de bois, on peut en faire du bois de chauffe et faire une rotation. Et lorsqu'on plante cela, on peut faire la culture intercalaire qui vous permet d'avoir d'autres produits ou sous-produits au même moment, faire l'apiculture au même moment. Et sur un espace bien défini, vous pouvez avoir 3 récoltes ou 3 différentes ressources qui vous reviendraient et qui vous permettraient d'améliorer sensiblement vos conditions de vie comparées à l'agriculture traditionnelle telle qu'on le fait, où vous n'avez qu'un seul produit que vous récoltez après un certain temps, et les rendements, dans les cas où les rendements ne seraient pas bons, donc vous aurez une mauvaise récolte, et donc vous n'aurez pas suffisamment de moyens pour subvenir à vos besoins. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on constate, et la forêt primaire, c'est justement cette forêt non touchée que Dieu nous a fait grâce et tout ça, qu'on n'a pas touché, et la forêt secondaire, c'est lorsqu'il y a eu coupure à l'intervention de l'homme, il y a eu reprise forestière, à ce moment-là, il y a eu déjà, elle n'est plus intacte, elle a été touchée, elle est différente. Et ça permet maintenant aux hommes de s'assurer que les forêts primaires ne sont pas touchées. C'est la raison pour laquelle on propose des plantations en dehors de forêts primaires. Lorsque on fait ces plantations, les gens ne pourront plus aller vers les forêts primaires. Et donc, on pourrait préserver ces forêts primaires parce que les essences, ça vous prend des années pour avoir ces arbres à cette taille que nous avons, que nous regardons souvent dans nos documentaires. Mmh. Ça vous prend des années. Donc, il faut les protéger parce qu'il y a toute une vie tout autour de ces arbres-là. Il n'y a pas que cet arbre-là tel qu'il est. Il y a des parasites qui vivent aux dépens de cet arbre et qui permettent à ce qu'il y ait renouvellement de ces espèces.
Bien, merci Flori Botamba. Je rappelle que vous êtes chef du programme Forêt et Point Focal au Fonds Mondial pour la Nature. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
Merci beaucoup.